Alors, pour les mois qui viennent, j'ai décidé de parler du karma. Donc, c'est pas un sujet, c'est un sujet qui est très vaste. Et du coup, c'est un petit peu intéressé parce que ça me permet de réviser en même temps. Et c'est pas évident parce qu'il n'y a pas forcément des ouvrages qui réunissent tout sur le karma. C'est-à-dire, à un moment donné, on va trouver ça, puis dans un autre ouvrage, on va trouver ça. Et c'est un sujet qui est très profond. Et d'ailleurs, on dit un être ordinaire ne peut pas comprendre totalement le karma. Il faut être éveillé pour ça. Il faut être Bouddha pour vraiment comprendre tout le karma. Mais on va quand même en parler parce que ce qu'il faut surtout qu'on comprenne, c'est qu'est-ce qui va nous être utile dans un premier temps de comprendre du karma pour la pratique. Et c'est vrai que c'est une notion qui n'est pas qui est souvent mal compris, parce qu'on l'utilise maintenant, on utilise karma à toutes les sauces, hein, c'est même, ça fait partie du dictionnaire, il paraît. Maintenant, il y a le mot karma dans le dictionnaire. Et parfois, bah, il y a des gens qui vont dire, oui, c'est ton karma, c'est mon karma, ouais, ça doit être mon karma. Et ça rend pas justice au karma au sens bouddhiste, parce que quelque part, donc, quand on dit ça, ça renvoie un peu à l'image de, bah, y a rien à faire, quoi. Son karma, voilà, c'est, il n'y a rien à faire. Mais en même temps, on peut comprendre pourquoi, parce qu'à l'origine, le mot karma, donc c'est une notion qui existe depuis très longtemps. Et la première fois, qu'il était employé, c'était pour parler de rites sacrificiels, en fait. On utilise karma dans ce contexte-là, le rite sacrificiel qui était censé restaurer l'équilibre du monde, on pourrait dire. Et puis ensuite, il a pris un sens différent avec la tradition, le jainisme. Le jainisme, qui est une voie spirituelle qui existe encore aujourd'hui, et qui existait avant le Bouddha. Et dans cette voie-là, donc, grosso modo, hein, c'est pour, je vais pas faire un cours de religion, mais grosso modo, dans le jainisme, le karma, donc ça voulait dire, ça veut toujours dire l'action, et l'action nous maintient, on va dire, dans le samsara. Et la seule façon de s'éveiller, c'est d'épuiser son karma. Et chez les jains, bah, l'idée, c'est que pour épuiser le karma, il faut arrêter d'agir. C'est ça qui permet d'épuiser et qui va nous permettre de réaliser l'éveil. Alors, dans le bouddhisme, ce n'est pas du tout le cas. Dans le bouddhisme, on ne renonce surtout pas à l'action. Mais c'est pour un peu vous expliquer d'où ça vient, cette histoire de c'est mon karma, etc. et pourquoi il y a confusion. C'est qu'au départ, c'était ça. Karma, bah, en fait, voilà, on a accumulé des actions et on est le résultat de ce qu'on a fait. Et donc, le seul moyen de libérer, bah, c'est de laisser le karma s'épuiser. Donc, quand il y a karma, il y a toujours une notion de vie successive. On va le voir. Toutes les traditions qui utilisent le mot karma admettent l'existence cyclique, c'est-à-dire la renaissance. Bah, on va aller dans le jainisme, on va aller de vie en vie, et puis on va épuiser son karma. Et la seule façon de s'en libérer, c'est-à-dire pas de ne pas continuer en fait d'aller de vie en vie, eh ben, c'est d'agir le moins possible. Alors on va avoir des pratiquants jains qui se baladent nus, qui évitent enfin, la moindre action, qui vont filtrer l'eau, qui vont essayer d'avoir le moins d'impact sur le monde, en espérant qu'au bout du compte, eh ben, le karma va s'épuiser et ça sera l'éveil. Le bouddhisme, c'est pas du tout ça. Et ça va être un peu la révolution que va apporter le Bouddha à son époque. C'est qu'il va dire, oui, le karma, nous sommes le résultat de ce que nous avons fait. Jusque-là, c'est pareil. Mais ce qu'il va introduire, qui est beaucoup plus important, c'est nous serons ce que nous faisons maintenant. Ça, c'est vraiment ce que va rajouter le Bouddha. Nous serons ce que nous faisons maintenant. Autrement dit, on peut faire quelque chose. On a une responsabilité, on est un processus, voilà, un processus qui continue sans cesse. Dans le bouddhisme, on admet les existences antérieures. On affirme même que ça continue après la mort, que quand on parle de la mort, il n'y a pas de mort à l'esprit. Il y a la mort du corps, mais selon le bouddhisme, on affirme l'existence d'une vie psychique, post-mortem, qui continue. L'esprit est sans début ni fin. Il est en processus continuel, mais on peut influencer ce processus. Comment? En agissant. Ce que l'on fait maintenant a des répercussions sur ce que nous deviendrons. Nous deviendrons ce que nous sommes maintenant. Donc il y a l'idée de karma, qu'on en soit conscient ou non. C'est-à-dire que selon le bouddhisme, nous plantons des actions, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons a des répercussions et influence ce que nous allons devenir. Influence non seulement les circonstances extérieures que nous allons vivre, mais surtout comment nous les vivons, les circonstances intérieures, les conditions intérieures. Et qu'on le sache ou pas. Qu'on le sache ou pas, voilà. Donc on a tout intérêt à le savoir pour justement savoir comment orienter notre processus. Donc juste petite parenthèse, je vais m'appuyer donc sur un enseignement que j'ai reçu de Lama Tsering, qui est une femme qui est le lama principal de Bodhicharya Portugal, je ne sais pas si vous la connaissez. On la voit souvent parce que on se rencontre au cours des séminaires d'été avec Ringu Rinpoche. Et puis un jour, on l'avait invitée à l'US un week-end, il y avait quelques années, pour enseigner sur le karma. Et vraiment, j'avais trouvé ça super éclairant. Donc du coup, je l'ai réécouté. Et puis, pour rien vous cacher, moi, je fais du plagiat. Hein. Quand j'aime bien en enseignement, comme il n'y a pas de copyright dans le bouddhisme, d'ailleurs c'est mon job en tant que quelque part enseignant bouddhiste, ben, je dois répéter ce que j'ai entendu, je dois pas faire. Donc j'ai aucun scrupule, je fais même pas de la paraphrase, hein. Moi si je trouve une formule que j'aime bien, c'est je reprends les mots, en plus je suis bon pour ça, hein. Je peux reprendre vraiment les phrases et je dis exactement la même chose. Et là, pour le coup, l'enseignement, il m'a parlé, mais du début jusqu'à la fin. Donc voilà, je lui passerai peut-être un coup de fil pour lui dire, voilà, j'ai fait du plagiat. Et encore, hein, j'assume. Hein. Parce que c'est l'enseignement du Bouddha. Voilà. Je me suis aussi beaucoup appuyé sur un ouvrage de Philippe Cornu, qui s'appelle Manuel du bouddhisme. Donc il a sorti, en fait, trois volumes. Manuel du bouddhisme, tome 1, tome 2, tome 3, c'est excellent. Enfin, on a la chance d'avoir en France des gens comme Philippe Cornu qui sont des érudits, qui vraiment ont bossé la traduction, qui sont en plus des pratiquants. Et Philippe Cornu, une façon d'expliquer le karma, donc c'est dans le tome 1, il va parler du karma. Manuel du bouddhisme, tome 1, un petit chapitre sur le karma, mais vraiment très, très éclairant. Et ouais, je me suis appuyé là-dessus. Donc, pour la plupart des gens, on fonctionne en karma pilote automatique. Bien que, voilà, donc l'idée c'est que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense va avoir des répercussions et vont influencer énormément ce qu'on va devenir. Pour la plupart d'entre nous, en fait, ça marche en pilote automatique, c'est on n'est pas conscient de ça. Et on n'est pas conscient de la responsabilité. En fait, de qu'est-ce qu'on induit en fait en ça, qu'est-ce qu'on induit au niveau de notre expérience, en quoi on est responsable de quelque part de l'expérience qu'on fait du monde. Et dans les enseignements bouddhistes, on va d'abord surtout parler du karma négatif. Quand vous lisez les enseignements traditionnels, etc., on parle beaucoup du karma négatif. Alors bien sûr, on parle aussi du karma positif, et c'est, on pourrait dire c'est même la partie la plus importante, parce que c'est comme ça qu'on purifie, quelque part, qu'on réécrit le programme. Mais pourquoi on parle beaucoup du karma négatif? Parce que c'est le karma négatif, c'est tout ce qui nous amène des résultats qu'on ne souhaite pas. Donc quelque part, on va s'occuper de ce qui est le plus urgent. Qu'est-ce que mes actions... qu'est-ce que mes paroles induisent en termes de karma négatif? Comment corriger ça? Parce que c'est, voilà, ça nous amène à justement qu'est-ce qu'on ne veut pas, qu'est-ce qu'on ne souhaite pas. Mais évidemment, ensuite on va parler du karma positif. Donc pour schématiser, nous accomplissons des actions. qui entraîne des prédispositions, des habitudes, des tendances. Et ces tendances font qu'on est enclin à agir à nouveau de la même manière. Quand telle situation apparaît, ben voilà, on a des habitudes qui entraînent une action. Cette action renforce une habitude déjà, voilà, cette prédisposition qui est déjà là, qui fait qu'on continue à agir dans ce sens-là et on renforce l'habitude. Et au bout d'un moment, on est pris dans une roue qui devient de plus en plus puissante, qui fait qu'on a peu de moyens. Si on n'introduit pas un élément de conscience, un élément de présence dans ce processus-là, eh bien, on est sans arrêt pétri de. On agit toujours de la même manière, de façon systématique, automatique. Et ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin et en plus, ça devient de plus en plus fort. Et ce que va nous dire le bouddhisme, c'est que on peut faire quelque chose par rapport à ça. Cette façon, ces habitudes qu'on a peuvent se remplacer. Notre habitude à réagir d'une certaine manière, notre habitude de voir le monde de telle ou telle manière, notre habitude d'expérimenter le monde de cette façon-là, on peut agir dessus. Ce n'est pas une fatalité. Parce qu'on a une part de responsabilité. Et ça va être ça la grande notion que va introduire le Bouddha à travers la notion de karma. Qui dit karma dit responsabilité. Au lieu de dire c'est préécrit, on ne peut rien faire, il va dire, on est responsable, donc on peut... Responsable au sens... Alors, il y a des gens qui n'aiment pas ce terme-là. Moi, quand je dis, c'est pas on est responsable de tout ce qui arrive dans le monde. C'est pas de ça. C'est... on a une part de responsabilité. Et on a une part de responsabilité, mais au sens, on peut faire quelque chose. On a un pouvoir sur ce qui nous arrive, à la fois ce qu'on induit de négatif, mais à la fois ce qu'on induit de positif. Donc on peut prendre les commandes. Voilà, c'est dans ce sens-là. On peut prendre les commandes de ce qui nous arrive. Comment ? Le libre arbitre. Alors le libre arbitre, on va y revenir, parce que effectivement, en Occident, on va dire, on est très dans quelque chose d'un peu duel, c'est soit libre-arbitre 100%, soit on pourrait dire ce qu'on appelle le déterminisme. C'est le destin, c'est écrit 100%. Et le karma, on va voir que c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que c'est 100% libre-arbitre, parce qu'on va voir qu'on a quand même des conditions, on a quand même des conditionnements extérieurs, voilà, qui ont... On est un élément qui est influenceur, influencé aussi par la société, par tout ce qui nous arrive, etc. On est aussi très conditionné par justement nos prédispositions intérieures, notre lecture du monde, notre interprétation des choses, etc. Donc bien sûr, quand on agit, quand on dit quelque chose, on ne peut pas dire qu'on est totalement libre. C'est difficile, à moins qu'on soit Bouddha. Où là, on est totalement libéré des conditionnements. Et puis c'est ça, en fait, réaliser la nature du Bouddha, c'est se libérer de tous les conditionnements. Mais tant qu'on n'est pas là, il y a quand même... Tout ça, ça joue, même si on n'en a pas conscience. Et en même temps, on n'est pas dans un déterminisme. Enfin, c'est-à-dire, déterminisme, ça veut dire c'est déterminé à l'avance, c'est écrit à l'avance. On n'est pas non plus là-dedans. On voit qu'avec la pratique, ne serait-ce que la méditation, on va nous offrir des outils pour prendre du recul sur ce qui nous arrive, pour avoir une sorte de... pour gagner du terrain... pour gagner du temps entre ce qui se passe et notre réaction. Là où c'est pilote automatique, là où c'est vraiment instantané, avec la méditation, on peut prendre un peu de recul sur ce qui se passe, voir les mécanismes qui se mettent en place, et puis éventuellement différer notre réaction, ou réagir différemment, et donc réécrire le programme. Choisir de changer nos habitudes, choisir de changer notre mode d'action. Et donc, on n'est pas non plus dans le déterminisme à 100%. Donc l'idée générale, et à la limite on pourrait s'arrêter là, parce que c'est pour ça que parfois dans les enseignements on développe pas trop le karma, parce que ce qui nous est en tout cas important de comprendre dans un premier temps, c'est on est responsable. Si on comprend ça, enfin si on comprend que notre part de responsabilité dans notre manière de vivre les choses, dans le fait qu'on est artisan à la fois de notre enfer et artisan de notre bonheur, bah c'est déjà suffisant comme base. L'idée de « ok, on peut faire quelque chose ». D'habitude, la plupart des gens, on rend responsable les choses. Enfin, on a tendance à rendre responsable les situations, à rendre responsable la société, les gens, etc. Et c'est pas courant, c'est pas si courant ça de se remettre en question. C'est rare même. On pourrait dire c'est une preuve de. Déjà, c'est déjà une preuve de maturité spirituelle de se remettre en question. De se dire, ah, est-ce que au bout de la 50e fois qu'il nous arrive le même truc, ouais, est-ce que ça serait pas moi qui induit ça? Est-ce que c'est normal que ça m'arrive systématiquement? Et on commence à se poser des questions. Bah, c'est déjà un grand pas, spirituellement, c'est un grand pas d'envisager ça. Un peu comme un enfant, au départ, l'enfant n'a pas conscience de ça, de son poids sur les choses, de son poids sur le monde. Et puis à un moment donné, voilà, ah oui, j'existe. Et puis il comprend la répercussion. Il comprend qu'il a un poids dans ce qui se passe. Alors dans le bouddhisme, donc ça, bah, on a déjà parlé, le dharma se concentre sur le fait de se transformer soi-même. On ne cherche pas à changer le monde, on ne cherche pas à changer les gens, ce n'est pas le propos du dharma. On considère plutôt qu'on se transforme soi-même et c'est ça qui transforme le monde. Mais et puis ça n'empêche pas ça n'exclut absolument pas le fait d'avoir une action sur le monde, une action sociale par exemple. Et c'est même encouragé. Mais on va dire que dans le dharma, c'est pas la priorité. C'est-à-dire tant qu'on n'a pas compris qu'est-ce qui entraîne de la souffrance pour soi et pour les autres, qu'est-ce qui est la cause, la véritable cause du bonheur pour soi et pour les autres, bah quelque part. C'est mettre un peu la charrue avant les bœufs que de vouloir transformer le monde, enfin de vouloir avoir une action concrète sur ce qui se passe si on n'a pas compris la racine du problème. Donc dans le dharma, ça va être la priorité. Et la racine du problème se situe en nous, donc c'est pour ça que le bouddhisme, en tibétain, se dit Nangpa. Par exemple, le bouddhisme, c'est un terme qui est inventé par les occidentaux, qui ne veut pas dire grand-chose, mais en tibétain, on dit Nangpa. Nangpa, ça veut dire ceux qui se tournent vers l'intérieur. Et déjà, ça en dit long. Alors évidemment, si quelqu'un nous demande, on ne va pas dire « Je suis la voix de ceux qui se tournent vers l'intérieur », parce que ça fait un peu pompeux. mais ça en dirait beaucoup plus long que dire « Je suis bouddhiste », parce que « Je suis bouddhiste », « Je suis bouddhiste ». Alors « Je suis la voix de ceux qui se tournent vers l'intérieur », »,« Je me tourne vers l'intérieur », ça en dit long. La racine se situe d'abord dans l'esprit. La racine du problème se situe d'abord dans l'esprit. Et autre chose qui est très importante dans le dharma, c'est que c'est une voie dans laquelle il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et l'éveil. On veut réaliser l'éveil, mais il n'y a pas d'intermédiaire, c'est-à-dire l'éveil est notre nature profonde. Quand on dit réaliser l'éveil, c'est pas atteindre l'éveil, c'est réaliser ce qui est déjà là, ce que nous sommes en essence. Et pour ça, donc c'est dans cette voie spirituelle, il peut y avoir des guides, comme les lamas, les maîtres, ce sont des guides, ce sont des aînés sur le chemin, mais ce ne sont pas des intermédiaires, comme on pourrait peut-être le voir dans d'autres traditions spirituelles, où on doit passer par, parfois par le prêtre, pour accéder à Dieu, ou par le brahman, pour accéder à la divinité. Dans le dharma, non, il n'y a pas d'intermédiaire, et quelque part on est responsable de son chemin. Personne ne peut faire le chemin à notre place, personne ne peut, on ne peut pas déléguer notre chemin à une autorité spirituelle ou à un maître, etc. Ils peuvent simplement nous montrer la voie, comme le Bouddha l'a dit, ne croyez pas ce que je vous dis, parce que je vous l'ai dit ou parce que vous me respectez, vous devez expérimenter par vous-même. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Je vous l'avais peut-être raconté, mais une fois, dans un enseignement, Rinpoche Rinpoche avait demandé à ses étudiants, voilà, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le bouddhisme? Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile dans le bouddhisme? Et enfin, si vous deviez expliquer le bouddhisme, à quelqu'un, qu'est-ce que vous diriez? Et il nous raconte qu'un étudiant avait dit, bah, moi, ce que j'aime le plus dans le bouddhisme, c'est qu'on est responsable de son chemin. Ce que je trouve le plus difficile dans le bouddhisme, c'est qu'on est responsable de son chemin. Et enfin, si je devais expliquer, voilà, à quelqu'un, voilà, un mot pour expliquer, ben, je lui dirais, on est responsable de son chemin. Alors, c'est exigeant, mais en même temps, enfin, moi, c'est ce qui me séduit, justement. C'est l'idée qu'on a tout sous la main. On a tout sous les mains, mais n'empêche que personne ne peut faire le chemin à notre place. Il n'y a pas un maître. Quand on parle de bénédiction, parfois, les gens ont une mauvaise compréhension de ce que c'est que bénédiction. Bénédiction au sens où il y aurait quelqu'un qui aurait le pouvoir de bénir. Allez, je te tape sur la tête ou je souffle sur ton malin et puis ça y est, les problèmes sont résolus, etc. Franchement, ce serait super. Mais ce n'est pas du tout le cas. Quand on reçoit la bénédiction, c'est qu'on reçoit l'inspiration. On est inspiré pour pratiquer. On est inspiré pour renoncer, par exemple, à toutes nos tendances négatives. C'est ça la bénédiction. C'est au contact de quelqu'un, eh bien, voilà, on reprend quelque part notre chemin en main, on est inspiré, et là on peut dire, oui, on a reçu la bénédiction des Bouddhas et des Bodhisattvas, rien à voir avec le fait que quelqu'un a eu le pouvoir de nous enlever nos obstacles. Non, c'est pas ça, personne n'a ce pouvoir-là. Les maîtres n'ont pas ce pouvoir-là. Voilà. Donc, pour parler du karma, je voulais juste faire cette parenthèse pour dire que dans le bouddhisme, il y a cette notion d'assumer son chemin. Et ensuite, ça va commencer par l'éthique. D'abord, le Bouddha va nous parler de l'éthique, ce qu'il faut adopter, ce qu'il faut rejeter. Le Bouddha est un éveillé et puis, quelque part, il a décidé, on dit le Bouddha Sakyamuni a une grande compassion. C'est un des Bouddhas qui a la plus grande compassion parce que il a accepté, il a comme projet d'enseigner aux êtres humains. Alors c'est dit dans certaines histoires que pourquoi il fait preuve d'une grande compassion? Parce que chez les êtres humains, eh ben, ils en sont à un stade tel qu'il faut déjà commencer par leur dire qu'est-ce qui est à adopter et qu'est-ce qui est à rejeter. Sous-entendu, ben voilà, on est dans une sphère assez grossière, quoi. On le sait pas forcément, c'est pas aussi évident pour nous. Alors il va commencer par parler des 10 actes négatifs, des 10 actes positifs. Et c'est pas à prendre comme, par exemple, les 10 actes positifs, les 10 actes négatifs, c'est pas les 10 commandements. C'est-à-dire, c'est pas à prendre comme un absolu. On va dire c'est une trame. C'est une trame pour nous permettre de comprendre un peu. Il y a des actes pour lesquels c'est très facile, c'est très évident. On est capable de comprendre que tuer, c'est négatif. Tuer, c'est assez évident. Mais dans la vie de tous les jours, comprendre ce qui est adopté, comprendre ce qui est rejeté, c'est beaucoup moins évident. Parce que c'est jamais tout noir, tout blanc. Ok, tuer... Mais on va voir que quand on parle des 10 actes négatifs, eh ben, il faut réfléchir en fait. On ne peut pas gober comme ça et puis les prendre comme un absolu, les suivre à la lettre sans comprendre. Il n'y a pas de place pour ça dans le dharma. Il n'y a pas de place pour une foi aveugle. On ne peut pas se dispenser de réfléchir. On va bien voir par exemple, parmi les actes négatifs, il y a l'acte de mentir. Mentir est considéré comme un acte négatif, c'est-à-dire non vertueux à l'éveil, cause de souffrance pour soi et autrui. Mais on va voir que, bah oui, mais dans certains contextes, mentir, ça peut être une bonne chose. Pourquoi? Parce que dans l'idée de karma, dont parle le Bouddha, c'est pas seulement action, c'est aussi l'activité de l'esprit. C'est quelle est l'intention qui motive l'acte. Et ça, c'est très très important. L'intention, la motivation. L'acte en lui-même, eh bien, en fait, il peut avoir une intention positive. Même mentir, par exemple, n'est pas nécessairement négatif si, par exemple, l'intention est positive derrière. L'exemple que je prends souvent, c'est imaginons un juif qui vient se réfugier chez nous pendant l'occupation nazie, puis qu'un nazi vient toquer à notre porte, et puis est-ce que vous cachez un juif? Non, par compassion, par protection, à ce moment-là, on va mentir. Mais comme l'intention est positive, bah, du coup, même si l'acte est en apparence noir, il aura une conséquence positive. Donc ça, c'est pour bien replacer de quoi on parle quand on parle des 10 actes négatifs. On parle de 10 actes en fait non vertueux à l'éveil. Qu'est-ce qui rend un acte? Qu'est-ce qui donne un acte négatif? C'est l'intention qui est derrière, c'est-à-dire une intention négative. Intention négative amène acte négatif, amène dukkha, souffrance pour soi et pour les autres. Intention positive amène acte positif, c'est ça qui fait l'acte positif, et amène sukha, bonheur, pour soi et pour les autres. Alors donc je vais parler de ça parce que, sans trop m'étaler, parce que sur l'éthique on en a déjà parlé, quand on nous parle de l'éthique bouddhiste, quand on nous parle des actes négatifs, ça fait appel à notre réflexion, à notre analyse qui va nous permettre de reconnaître par nous-mêmes que tel acte entraîne de la souffrance, que tel acte entraîne du bonheur. C'est pas quelque chose qu'on nous impose. Alors voilà, il faut pas que, c'est juste je comprends que telle intention amène telle action et sera des résultats positifs. Et c'est pour ça que je l'adopte. Il n'y a pas d'imposition. On n'impose pas dans le bouddhisme parce que l'imposition, ça amène l'obéissance. Quand on nous impose quelque chose, ça entraîne l'obéissance. Et d'une certaine manière, bah, l'obéissance, ça entraîne la déresponsabilisation. Ouais. Vous voyez l'idée, bah oui, un peu comme on entend, bah je ne faisais qu'obéir aux ordres. Vous voyez, voilà. Plus on comprend, plus voilà, c'est important de comprendre. On adhère aux enseignements, on les met en pratique parce qu'on les comprend, pas parce qu'ils nous sont imposés, pas parce qu'il faut que. C'est pas bon ça. Alors quand on comprend ça, après ça nous permet de distinguer, enfin on a le choix, soit on se laisse porter par le karma, alors évidemment parfois on n'en est pas conscient, hein, parce qu'il y a les tendances, etc. Soit on va introduire des éléments de conscience de plus en plus pour pouvoir agir en conséquence de cause. Et en plus, plus on va comprendre, plus ça va être clair pour nous, cette notion de karma, plus ça va être facile à appliquer. Et on va bien voir que ça vient de l'intention. On va être sans arrêt amené à clarifier nos intentions derrière nos actes. Déjà les détecter, en prendre conscience. Qu'est-ce qui, derrière chaque geste, il y a toujours, derrière le moindre geste, il y a toujours une intention, plusieurs intentions, mais on va d'abord clarifier ça et puis voir ensuite qu'est-ce qu'on peut corriger. Alors ensuite, selon les individus, le karma va avoir plusieurs facettes. Il peut prendre des formes différentes. Il peut prendre des aspects très différents selon les individus. Et la pratique, elle va agir comme une sorte de... C'est quelque chose qu'on introduit là-dedans qui va nous permettre d'accélérer éventuellement le processus karmique. C'est-à-dire soit de purification, C'est-à-dire on peut réécrire, voilà, une habitude. Puisque c'est une habitude, bah, ça peut se remplacer par une autre habitude, une habitude négative. C'est pas quelque chose qui est fatal, c'est juste un entraînement à agir de telle ou telle façon. Et ben on va la remplacer par une autre attitude qui est positive. Et c'est comme ça qu'on va purifier les karmas. Et quand on dit purifier les karmas, c'est on dit chaque action. Ça, je vous en parlerai plus tôt la prochaine fois. Mais toute action aura un résultat tôt ou tard. Tôt ou tard. Par contre, avec la pratique, bah, on peut désamorcer. C'est-à-dire, on peut énormément amoindrir, par exemple pour un karma positif, énormément amoindrir le résultat, voire le faire disparaître, voire accélérer le processus de purification. Voilà. Mais ça, j'aborderai ça la prochaine fois, parce qu'on va rentrer vraiment plus profondément. Juste pour dire qu'il y a des... dans cette idée d'abord de clarifier nos intentions, on va voir qu'il y a des tendances qui nous sont assez... des habitudes qui sont très grossières, faciles à voir et donc peut-être plus faciles à corriger ou à modifier s'il y a besoin. Et on va aussi parler d'habitudes qui sont très profondes, parce que le karma, il y a plusieurs couches. Et il y a des tendances, voilà, quand on parle justement des habitudes qui sont très ancrées, très profondes, on parle de tendances. Et les tendances sont parfois indétectables à première vue. C'est tellement ancré en nous que ça, c'est invisible et on a du mal à le voir et donc on ne peut pas travailler dessus. Ça va se faire avec le temps. On dit, les maîtres utilisent cette image, c'est comme un flacon de parfum. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de laver un flacon de parfum. Même après l'avoir nettoyé encore et encore, il reste encore le parfum après des années. Alors que le flacon est vide depuis longtemps, il reste un parfum. Et c'est cette image qu'on utilise pour parler des tendances. Même si on sait, etc., bah il y a certaines tendances qui restent, qui demeurent et qu'on met du temps à déraciner. Voilà, quand on parle par exemple du... Bah, la grosse tendance hein, qui, dans le dharma dont on parle, c'est la saisie égocentrique, la saisie d'un moi. L'idée d'un moi qui l'idée d'un moi qui est séparé des autres, séparé du monde, autonome, indépendant, permanent. Voilà, on a beau le savoir, hein, le flacon est vide d'ego. On sait bien que voilà, même si on l'a compris, même si on a peut-être eu une expérience, etc., on voit bien que la saisie d'un moi, il revient très naturellement au galop, quoi. Donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas être trop dur avec soi-même, il ne faut pas être trop dur avec ça. C'est des choses qui prennent du temps, qui vont demander de la patience, persévérance, voilà, les paramitas, de l'enthousiasme éventuellement, parce que ça fait partie du chemin de garder voilà, la joie sur le chemin. Mais ça va prendre du temps. Ça ne va pas se faire comme ça. Alors, petite parenthèse aussi sur le Vajrayana. Le Vajrayana, quand on est dans le bouddhisme tibétain, on a le privilège, enfin, si on a le privilège de recevoir les instructions du Vajrayana et d'être à l'aise avec ça, on dit que c'est un moyen qui est extrêmement puissant parce que ça va, à travers le symbolisme, à travers l'initiation, si on pratique le Vajrayana, ça va travailler à notre insu. On pratique le Vajrayana, il y a quelque chose, un processus qui est en œuvre et qui travaille à notre insu. Et c'est en ça qu'on considère que c'est très puissant. Mais quand on parle voilà de Shiné Laktong, qui sont les méditations pratiquées dans toutes les écoles du bouddhisme, bien sûr, ça fait le job aussi, quoi. Alors, dans les enseignements traditionnels, quand on parle du karma, on va utiliser des images. C'est toujours expliqué de manière très pédagogique. Et parfois, ça ne nous parle pas parce que... Enfin, ça ne nous parle pas. Les maîtres vont utiliser des façons de... Alors, c'est toujours vrai. Hein. C'est toujours des vérités qui sont au-delà du temps. Mais parfois, on va retrouver, notamment dans les histoires tibétaines, beaucoup d'images avec des yaks, de la tsampa. Alors, les yaks, c'est peut-être des animaux qu'on n'a jamais vus de notre vie, dans un contexte qui nous paraît un peu qui peut être très loin de notre quotidien. Et donc, ça ne va pas forcément nous. Alors, ce n'est pas forcément un obstacle, mais pour certaines personnes, ça ne va pas forcément nous parler. Ça ne va pas forcément nous inspirer parce que, bon, bah voilà, les bergers, les moutons, c'est un peu loin de notre quotidien. Aujourd'hui, les maîtres traditionnels maintenant, les maîtres contemporains vont beaucoup plus parler de l'aspect intérieur du karma. Quand on lit les textes, je ne sais pas si vous avez dans la lignée Kagyu, il y a le Gampopa, le précieux ornement de la libération, qui est un peu la Bible de la lignée Kagyu, et puis d'autres ouvrages qu'on appelle les Lamrim, comme le chemin de la grande perfection, Patrul Rinpoche. Souvent, quand vous lisez ces ouvrages et qui parlent du karma, donc c'est très détaillé sur le karma, mais on va beaucoup parler des aspects extérieurs du karma, c'est-à-dire qu'est-ce que ça entraîne comme conditionnement extérieur. On va parler du lieu dans lequel on vit, on va parler de l'entourage, on va parler un peu de l'ambiance générale. Et on va pas. Et c'est un aspect, hein, c'est un aspect qui est très intéressant, très important, mais finalement, ce n'est pas l'aspect le plus profond du karma. L'aspect le plus profond du karma, c'est nos conditionnements intérieurs. C'est de là que tout part. Et c'est ça, en fait, qui entraîne, qui est le plus conditionnant. C'est ça le plus conditionnant. Beaucoup plus que ce qui arrive. Ça, on va le voir. Mais, et puis, en plus, les images qui sont utilisées, bah, comme je vous disais, ça nous paraît tellement loin que c'est un peu comme si on allait faire un voyage en Amazonie avec, puis qu'on rencontrait une tribu, puis qu'on se disait, voilà, oh, ils ont des mœurs très intéressantes, etc. Mais en même temps, ça nous accroche pas, quoi. C'est pour ça que je vais vous parler plutôt de l'aspect intérieur du karma, parce que ça va beaucoup plus nous toucher. Comment on vit les choses? Comment on réagit aux choses? Quelles sont les prédispositions qui font que, bah oui, ça influence énormément notre manière de fonctionner, notre manière d'agir. Alors, il y a aussi un aspect qui est très intéressant dans le karma. C'est le fait que on nous met en garde, on nous met en garde sur le fait que il faut pas négliger la moindre des petites actions, parce qu'en fait, les actions qu'on plante peuvent avoir des résultats qui sont totalement disproportionnés, démesurés par rapport à la graine. Une petite action positive, selon certains contextes, en fait, peut avoir entraîné des circonstances absolument, enfin voilà, des résultats énormes. Et l'image qui était que les maîtres citent souvent, c'est une histoire en fait où on dit que on parle d'un personnage qui s'appelle Mandata, qui est devenu souverain universel doté d'une roue d'or qui dominait les quatre continents. Vous voyez, c'est l'image des cosmologies bouddhistes, donc quelqu'un de très puissant, très influent. Et pour comprendre comment il est devenu souverain universel, on raconte que dans une vie antérieure, il était un enfant qui, en guise d'offrande, a jeté une poignée de fèves au Bouddha de l'époque, qui s'appelait Vipashin. Le Bouddha Vipashin, il lui jette une poignée de fèves, et on dit que quatre de ces fèves sont tombées dans le bol du Bouddha. Deux dans les plis de sa robe, et puis une l'a touché au cœur, et le résultat d'avoir accompli cette action fait qu'il est devenu souverain universel. Donc cette image est utilisée pour nous faire comprendre que une action, selon les circonstances, quand elle mûrira, peut avoir des résultats absolument disproportionnés. Ça marche aussi bien pour les actions positives que pour les actions négatives. On dit une pluie de gouttes finit par remplir la plus grande des jarres. Ça, c'est pour les effets positifs. Et puis, mais en même temps, une étincelle peut mettre le feu à une montagne de foin. Vous voyez l'idée? Une étincelle, en fait, peut mettre le feu aux poudres. Et ça, on peut le voir, par exemple, dans une situation où il y a un conflit, où il y a déjà, voilà, des éléments très conflictuels. Parfois, il suffit d'une phrase, enfin, même une action accomplie de manière très fortuite, pour que ça tombe au mauvais moment, au mauvais endroit, et puis ça met le feu aux poudres.
C'est l'effet papillon.
Comment?
C'est l'effet papillon.
C'est l'effet papillon. Voilà, exactement. Ça, c'est cette idée-là. On dit les ailes, c'est quoi l'image? Ça peut provoquer un tsunami à l'autre bout de la planète. Ben, voilà, c'est exactement ça. On sait, parce que ça a des répercussions, tout ça. Une action n'est jamais. Voilà. Tout élément influence énormément de paramètres qui vont influencer énormément de paramètres. Et au bout d'un moment, le résultat n'a peut-être rien à voir, mais ça peut être décuplé. Donc, on fait attention à ne pas minimiser nos actions et toutes les prendre en considération. Et puis maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc évidemment, le karma, c'est pour ça que j'ai choisi en fait de faire plusieurs séances pour qu'on y aille tranquillement. Mais bon, pour finir, en fait, quand on parle du karma, on va parler, donc karma veut dire action. Mais action, ça démarre au niveau de l'esprit. L'activité de l'esprit est la racine de l'action. On va parler de quatre moments. On va parler de l'intention, on pourrait dire, ou la préméditation aussi. On voit dans les textes préméditation. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la mise en œuvre de l'action. Le troisième élément, c'est l'accomplissement de l'action. Est-ce qu'elle aboutit ou pas? Et enfin, le quatrième élément, c'est la satisfaction qu'on a ou le regret par rapport à l'action. Donc, premier élément, c'est l'intention ou la préméditation. Deuxièmement, la mise en œuvre. Troisièmement, l'aboutissement. Est-ce qu'elle est accomplie ou pas? Et enfin, satisfaction ou pas? Et en fait, s'il n'y a pas le premier et le quatrième élément, c'est-à-dire s'il n'y a pas l'intention et il n'y a pas la satisfaction derrière, l'action a peu de pouvoir. C'est important à savoir. Bon, je sais que vous savez déjà, enfin pour la plupart. Hein. Mais voilà, je rappelle. C'est s'il n'y a pas d'intention et s'il n'y a pas de satisfaction, quelque part, non, il y a très peu de pouvoir engendré par cette action. On rentre chez nous en voiture, un chat par exemple traverse et se jette sous nos roues, il meurt, il est tué sur le coup. Quelque part, s'il n'y a pas l'intention, et puis s'il n'y avait pas la. Et si en plus, non seulement il n'y a pas satisfaction, mais en plus il y a regret, quelque part, il n'y a pas là, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de résultat au sens négatif du terme, il n'y a pas de plein effet. Il y a des conséquences. Mais ces conséquences seront liées à il n'y avait pas d'intention et en plus il y a regret. Donc il n'y a pas de mauvais karma de ça. Et c'est ça, c'est vraiment les deux éléments les plus importants de l'action. C'est en ça que le Bouddha est révolutionnaire. Parce qu'à l'époque, karma, c'est action. Il faut éviter l'action. Alors que là, non, il ne s'agit pas d'éviter l'action. Il s'agit de faire attention à la. Il s'agit de vraiment porter notre attention sur l'intention. Et c'est là qu'on agit, c'est là tout notre pouvoir. Donc, comme je vous disais, dans les textes traditionnels, quand on parle du karma, on va beaucoup parler de tout ce qui se réfère à ce que ça entraîne comme conditionnement extérieur. Le lieu où on vit, l'entourage, toutes les circonstances extérieures, l'ambiance un peu générale de notre expérience. Et les maîtres contemporains, de plus en plus, notamment Rinpoché, ils vont parler du karma en termes de conditions intérieures. Qu'est-ce que ça entraîne comme conditionnement intérieur? Et on va voir que c'est l'aspect le plus important, celui sur lequel on a plus de marge de manœuvre, celui qui est en plus le plus conditionnant, l'aspect intérieur. Et pour parler de ça, Lama Tsering nous avait citer un exemple qui m'avait bien parlé, il nous disait, imaginez, on est là, et puis quelqu'un déboule dans la pièce en faisant du bruit, quoi, avec fracas, naturellement, nous, on va se tourner vers la source du bruit. Et il n'y a pas d'intention particulière, hein. C'est neutre, on se tourne vers la source de bruit. Maintenant, imaginons que la personne, eh ben, c'est quelqu'un qui vient s'échapper de la prison de Nancy, par exemple. Et puis que voilà, son avis de recherche est placardé à la fin, voilà, on l'écoute à la télé, etc. Eh bien, selon ses prédispositions, peut-être que cette personne, en rentrant dans la pièce, notre réflexe de se tourner vers elle, qui est tout à fait neutre, eh ben, il pourrait être envisagé comme une menace, comme quelque chose de, ah, voilà, de menaçant. Parce que ça vient de ses prédispositions, de ses conditionnements intérieurs et extérieurs qui font que bah, dans le contexte, elle va prendre ça pour, voilà, ah, il y a suspicion, il y a menace. Et c'est ça qu'on appelle l'enfer dans le bouddhisme. C'est vrai qu'on va utiliser des images qui vont nous montrer que l'enfer, c'est un monde où tout est menaçant, tout est agression. Et va y avoir des images très fortes, le sol est brûlant, les arbres, c'est plus des feuilles, c'est des lames. Tout est agression, tout est menaçant, etc. Mais il faut bien comprendre que quand on parle de l'enfer dans le bouddhisme, on ne parle pas d'un lieu. On parle non pas du fait que tout est menaçant, mais tout est vu comme menaçant. À l'origine, c'est les prédispositions qui font qu'on pourrait être au paradis, mais tout est vu comme un enfer. Alors évidemment, dans le contexte de l'évadé, quand on parle de texte qui parle des enfers, c'est des précisions qui sont beaucoup plus ancrées que ça. C'est-à-dire où vraiment, il n'y a pas un instant de répit. Les renaissances dans le monde des enfers, c'est quand l'esprit est tellement conditionné, prédisposé à ça, que quel que soit le lieu, quelles que soient les circonstances, tout s'est vu comme agression non-stop, sans répit. Et on parle de l'enfer. Mais on peut voir hein, des êtres humains qui sont... voilà, on pourrait dire, bah, ils pourraient avoir tout pour être heureux, mais de par des fragilités, de par des... problèmes psychologiques, etc., tout est en permanence agression, violence, paranoïa, etc. Et donc, du coup, il n'y a pas de répit pour ça. On n'endort pas de la nuit, alors que, bon, les circonstances extérieures, finalement, pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être aucun problème, voire ça pourrait être le paradis. Donc, bien comprendre que quand on dit l'enfer, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas un lieu, c'est comment on voit les choses. Tout est vu comme menaçant, alors que les choses ne sont pas forcément menaçantes. Comme notre regard qui se tourne, voilà, de manière neutre vers la personne. Et puis, bah, inversement, elle nous avait raconté que, enfin, elle avait cité un autre exemple. Imaginons que c'est Miss France qui débarque en trébuchant et qui vient d'être élue Miss France. Et bah, nous, pareil, on se tournerait neutre, c'est d'où la source de bruit. Et puis elle pourrait se dire, ah, tout le monde sait qui je suis. Enfin voilà, on pourrait imaginer ça, quoi. Le karma induit une lecture du monde, une interprétation du monde. Le karma au sens conditionnement intérieur. Je vais beaucoup parler de ça parce que je trouve que c'est l'aspect qui est le plus profond et qui nous intéresse là. Notre manière d'action, nos intentions, en fait, induisent des prédispositions au niveau de l'esprit. Induisent une lecture du monde particulière, induisent une interprétation particulière. Et ça peut fabriquer notre enfer comme ça peut fabriquer notre paradis. À nous de comprendre comment ça fonctionne. Si on comprend ça, bah du coup, on a un pouvoir. On a le pouvoir justement de rendre les choses plus faciles, de se sentir plus libre, plus heureux, etc. Quel que soit le fait que les choses arrivent ou n'arrivent pas. Et il y avait un autre exemple qui m'avait amusé. C'est elle nous racontait qu'elle avait été traduire un maître tibétain qui enseignait à Tahiti. Comme elle est traductrice, elle est là-bas. Et donc le maître tibétain a débarqué à l'aéroport de Tahiti. Puis avant de commencer les conférences, ils avaient été se promener. Et puis comme il faisait très chaud à cette période, ils ont décidé de s'asseoir au pied d'un arbre. Et donc il faisait très très chaud, donc le lama transpirait, etc. etc. Et quelqu'un lui demande, ah oui, ça va, lama, vous avez chaud, hein. Il dit, oh oui, c'est vrai, il fait chaud, mais en même temps, il y a une petite pluie rafraîchissante qui tombe, et donc c'est bien agréable. Il faut savoir qu'en fait, à Tahiti, à cette période-là, il y avait des insectes, des nuées d'insectes très très nombreux qui étaient là, qui venaient d'Australie, je crois. Et les Tahitiens les appelaient les mouches pisseuses parce que, en fait, ces insectes récoltaient la sève des arbres, et puis, donc ils s'agglutinaient, et puis ils la rejetaient immédiatement sous forme d'urine, quoi. Et donc ça donnait cette espèce de pluie bruyante, etc. Donc, lama Tsering commence à lui expliquer, quoi, au lama. Bah oui, mais en fait, voilà, je vous explique, c'est des insectes, nanana. Bon, alors sur le coup, le lama, il dit rien. Mais en fait, pendant la conférence plus tard, donc, il raconte son expérience, et il dit, voilà, avant qu'on m'en parle, moi, je trouvais ça plutôt bien, quoi. C'était agréable, cette petite pluie rafraîchissante. Et puis, dès que on m'a expliqué que c'était de l'urine, eh ben, ma perception a quand même vachement changé, quoi. Et c'est intéressant parce que rien n'a changé dans la situation. Entre le moment où il lui a dit et le moment où il ne l'a pas dit, ça n'a rien à changer, sauf dans son esprit, quoi. Là où c'était perçu agréable, après, moyen. Et là où c'est aussi intéressant, c'est que lama Tsering, elle aurait pu lui raconter un bobard. Cette histoire d'insecte, ça aurait pu être une fiction. Et bien, les faits, il aurait été le même. À partir du moment où si on y croit, voilà. Donc tout ça pour dire que voilà, les conditionnements intérieurs, comment on lit les choses, ça joue énormément sur notre perception. Et on peut comprendre du coup qu'un esprit qui est par exemple très, très négatif, voilà, avec beaucoup de pensées négatives, qui voit tout en noir, etc., à quel point en fait ça joue énormément sur ce qu'on vit. Et on est sans arrêt finalement en train de transformer la pluie en urine, de cette manière-là. Petit exemple. Il y en a qui lèvent la tête.
La neige, c'est quoi?
Alors, aussi un petit détail qui. Enfin, non, pas un petit détail, un aspect important. Donc, dans le karma, donc on va parler de ces quatre moments. Et le premier et le quatrième moment, donc l'intention et la satisfaction, c'est ce qui va former les conditionnements intérieurs. Alors que la mise en œuvre de l'action et l'aboutissement de l'action, c'est ce qui va jouer sur les conditionnements extérieurs. Ça va? Conditionnement intérieur, donc, et conditionnement extérieur. Donc, ce qui amène nos conditionnements intérieurs, c'est le premier et le quatrième moment, c'est-à-dire l'intention et la satisfaction ou pas, voilà, par rapport à l'action. Et ce qui amène les conditionnements extérieurs, c'est la mise en œuvre de l'action et l'action, et l'aboutissement de l'action ou pas. Mais alors par exemple, oui, si on tue quelqu'un, par exemple, l'intention de tuer et la satisfaction ou le regret d'avoir tué, ça va jouer sur nos conditionnements intérieurs, notre façon de lire le monde, réagir au monde. L'acte, la mise en œuvre et l'aboutissement de l'acte, c'est ça qui va influencer les conditions extérieures. Ça peut même se voir au niveau très temporel. On va voir que le fait de tuer quelqu'un qui tue quelqu'un, eh ben, ça va jouer sur le regard des autres. Le regard des autres, la façon dont on va percevoir cette personne qui a tué, et puis même le fait ça va amener la personne à être amenée en justice. Jugé, etc. Voilà, ça c'est les conditionnements extérieurs, les conditions extérieures. Mais ce qui nous intéresse le plus, donc le plus important, ça va être les conditionnements intérieurs. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui nous suit partout. Ça nous suit maintenant et ça nous suit aussi dans le futur. On traîne avec nous. Et même, on pourrait dire, ça nous suit dans le rêve aussi. Conditionnement intérieur, même quand le corps est en stand-by, eh ben, les conditionnements intérieurs continuent d'agir. Quand on est en train de rêver. Et selon Bouddhisme, même post-mortem. puisqu'on on admet l'existence des vies futures. Ça nous suit aussi dans les vies successives. Donc c'est pour ça que c'est le facteur le plus conditionnant. Les choses qui arrivent dans le monde, on a très peu de pouvoir d'action sur ce qui se passe dans le monde. C'est très limité. Souvent, ce n'est pas seulement de notre sort. La plupart du temps, ce n'est pas de notre sort. Plein de choses qui se mettent en place. Par contre, notre attitude par rapport au monde, notre façon de voir les choses, notre façon de vivre les choses, bah ça peut tout changer. Et donc, on peut transformer l'urine en pluie. Dans le dharma, on nous enseigne que la vérité, la réalité, c'est quelque chose qui est très malléable. Tout ce qui est généralité, alors là, je m'avance, enfin, j'aborde un aspect qui n'est pas forcément facile à comprendre pour certaines personnes, enfin en tout cas au début, mais on en a déjà parlé, c'est que dans le dharma, ce qui relève de la réalité, la vérité, c'est quelque chose de très malléable. Ça dépend des individus. Dès qu'on parle de généralité, par exemple si on dit la guerre, si on dit la nation, si on dit le confinement, on ne parle jamais d'une réalité, parce qu'on le vit tous différemment. Même quand on dit « il y a la guerre » ou « j'ai vécu la guerre », c'est quelque chose qui est toujours très personnel. Le confinement, voilà, on pourrait dire « bah oui, nous on a vécu le confinement, mais de quoi on parle en fait ?» C'est très vague, on a vécu le confinement. On fait une généralité, mais tout le monde l'a vécu différemment. Il y a même des gens qui vont dire « ça a été super pénible, plus jamais », et puis d'autres « ouais, ça n'a pas été si mal en fait, il y a eu des bons côtés ». Vous voyez, le confinement a une signification qui est totalement relative, selon chacun. Et notre façon de le vivre va être très liée à nos conditionnements intérieurs. Donc c'est sans ça que, point de vue du dharma, la réalité, ça se modifie. La vérité, ça se modifie, justement parce qu'elle est relative. La vérité ultime, c'est que tout est relatif. Donc ça se travaille, ça peut se... Voilà, les choses ne sont pas figées, ne sont pas fixes. Et ça, c'est notre karma, la façon de voir les choses comme ça, mais c'est aussi notre karma de transformer les choses. Donc on pourrait dire que c'est très différent de l'idée de quand il nous arrive quelque chose. Voilà, le fait de tomber, ou alors de vivre sans arrêt les mêmes situations, etc. Ça n'a rien à voir, la notion de karma n'a rien à voir avec le fait d'être poursuivi par des diablotins, d'avoir un châtiment, etc. On est très loin de tout ça. C'est plutôt, on porte des lunettes qui vont modifier notre perception. Et en plus, on est un processus. C'est-à-dire que ce karma il est sans arrêt en train de changer. Nos habitudes changent constamment. Nos actions entraînent d'autres habitudes qui entraînent d'autres actions. Ça change tout le temps. Donc c'est un processus. Et je fais une petite parenthèse pour bien être clair par rapport à ça. Dans le dharma, parfois il y a des gens qui vont dire à l'emporte-pièce « Oui, bah alors donc si tu as été, si tu as un cancer ou si tu as été violé, si c'est parce que tu as été méchant. » Enfin, je caricature, si tu as été méchant dans une autre vie, quoi. C'est pas du tout ça, le karma. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est comme si on disait « bah voilà, en Afrique, il n'y a rien. Donc les gens qui naissent en Afrique... c'est parce que ils ont un karma d'être nés en Afrique parce qu'ils ont accompli des choses qui font que non, il y a des gens qui sont très heureux en Afrique. Enfin, je veux dire, le karma ne crée pas le monde. Le karma ne crée pas l'univers. Le karma crée notre façon de vivre les choses et notre façon de réagir aux choses. Ça, c'est très important. Quand on parle de karma, on parle d'une causalité qui est. Ça va? Ouais.
Non, mais j'aurais des questions à poser, mais
Ouais,
je...
bah, pas de
Après.
problème, je vais laisser un temps pour les questions. Mais c'est important de comprendre ça, c'est que quand on parle de karma, on parle de loi de causalité, mais il y a plein de champs de causalité. Par exemple, le fait que si on plante un épi de blé, une graine, un grain de blé, ça donne un épi de blé, on n'est pas dans le karma là. On est dans une loi de causalité biologique. Le fait qu'il y ait les marées, le fait qu'il fasse beau, qu'il fasse du vent, etc., ça c'est une causalité qui est météorologique. Et ça rentre en ligne de compte, quoi. Mais c'est pas le karma du fait qu'il pleuve, qu'aujourd'hui il pleuve, c'est pas notre karma, vous voyez. Il y a plein de causalités qui sont en jeu, mais quand on parle du karma, on parle d'une causalité qui est liée à l'esprit, qui est liée à une habitude de voir les choses, qui entraîne des actions, qui entraîne des prédispositions, etc. Mais on parle de l'esprit, une loi de cause à effet liée à l'esprit. Tout démarre dans l'esprit. Et ensuite, eh ben, ça vient en interdépendance avec tous les champs de causalité. Je vous donne un autre exemple hein, pour que ce soit le plus clair possible. S'il y a un soldat, voilà, on est dans une guerre et puis un soldat tue un soldat de la nation adverse. Le soldat, il va avoir les répercussions du fait d'avoir tué un autre être humain. D'accord? Et puis ensuite, ça va être aussi ce qui va jouer aussi dans le karma, c'est que derrière l'intention, bah, il l'a fait au nom d'une nation. Ça aussi, ça joue. C'est pas. Mais il va récolter donc le fait d'avoir tué quelqu'un. Et ça va avoir aussi des conséquences au niveau des deux pays. Voilà, des causes géopolitiques. Voilà, ça va jouer dans les conséquences. Ça ne sont pas le karma. Ça, c'est aussi d'une loi de cause à effet, mais qui est une causalité géopolitique, si je peux. Enfin, voilà, je ne sais pas si je maîtrise bien les termes. Vous voyez? Mais le karma, voilà, il y a le karma et puis il y a d'autres champs de causalité. Faut pas tout mélanger, quoi. Donc, quand quelqu'un dit je suis malade, c'est mon karma, je vais mourir sans mon karma, ben non. Tout le monde tombe malade. Tout le monde meurt. C'est naturel, en fait, de mourir. C'est pas le karma de mourir parce qu'on peut. On peut avoir le karma de vivre mal, le fait de mourir, et puis on peut aussi avoir le karma de se libérer au moment de la mort. Vous voyez? Mais c'est pas la mort, le fait de mourir qui est un karma. Ça, c'est une causalité qui est biologique, d'une certaine manière. On naît, on meurt. Voilà, causalité. Et encore, c'est même pas le corps qui meurt. Le corps ne meurt pas, il change de. C'est une transition de phase. Les éléments s'assemblent, ils se désassemblent. Il n'y a rien qui meurt. Par contre, l'esprit qui dit je suis mort, ça c'est karmique. C'est une idée. Je vais m'arrêter là. Puis on continuera la prochaine fois.
Mais avec cette manière d'envisager les choses, est-ce que ça ne réduit pas le karma aux uniques facteurs mentaux? Parce qu'à un moment donné, on n'a pas justement le karma est en interdépendance avec l'ensemble. Je veux dire que ce soit le karma intérieur ou le karma, je dirais, comme vous l'évoquiez, des différents événements météorologiques et autres, on est sur quelque chose qui est en interdépendance et relié.
Ouais, tout à
Donc
fait.
à partir de là, envisager le karma que du point de vue de l'intérieur ou de l'individu, c'est résumer le karma aux facteurs mentaux.
Non, non.
Donc on est sur le vol émotionnel.
Non, non. C'est le facteur le plus conditionnant.
D'accord.
C'est-à-dire, dans le karma, il y a le karma qui entraîne des conditions intérieures et le karma qui entraîne des conditions
Extérieur,
extérieures.
c'est ce qu'on dit
C'est les
juste
deux.
là. Et les
C'est
deux sont
vraiment les deux.
liés.
Ouais,
D'accord.
les deux sont liés. Ouais.
D'accord.
Mais j'insiste sur le karma intérieur parce que c'est le
D'accord.
plus conditionnant. Mais les deux sont liés, ouais.
Oui, mais à partir du moment où on
Un
lève le
flux.
voile émotionnel, on n'a plus effectivement cette intériorité, il reste juste le voile cognitif. Et le voile cognitif, on peut le lever uniquement avec la réalisation de la vacuité.
Ouais.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut réellement ne plus, on peut ne plus produire de karma à partir du moment où on a l'éthique, comme on l'évoquait tout à l'heure. On ne produit plus de karma, mais pour le purifier,
Si on produit du karma positif, si on produit de l'éthique.
positif, mais on ne le purifie pas.
Non,
C'est-à-dire que
on ne
pour le
purifie pas.
purifier, il
Faut
va lever le voile émotionnel, mais
ouais.
pour lever le voile cognitif, c'est-à-dire la racine, c'est-à-dire l'ignorance, il faut une réalisation de la vacuité.
C'est
C'est-à-dire que
ça,
quand on
ouais.
réalise la vacuité, on a effectivement une
On est libre
disparition,
du
puisqu'on
karma.
on
Ouais.
a tous les liens d'interdépendance
Ouais.
qui apparaissent.
Ouais, tout à fait.
Donc, je dirais, le karma ne se limite pas seulement à, je dirais, la partie intérieure. Il est interrelié, il est interconnecté, comme le dirait le Karmapa, justement, avec l'ensemble. Donc, à ce titre, c'est pas moi et le reste.
En quoi c'est contradictoire avec ce que je viens de dire?
C'est pas contradictoire, c'est que j'avais l'impression que c'était uniquement centré sur l'intérieur.
Non, c'est pas centré sur l'intérieur.
D'accord.
C'est juste, on va dire que c'est un parti pris d'insister
D'accord.
surtout sur l'aspect
D'accord.
intérieur, dans le sens où quelque part c'est là que c'est là qu'on a le plus de pouvoir d'action.
D'accord.
Ouais.
Par le biais justement, je dirais, de l'appréciation du fonctionnement de l'esprit et des facteurs
Ouais.
mentaux,
Alors bien
pas au
sûr,
voile émotionnel.
là je parle de karma positif par karma négatif, parce que on va voir plus loin qu'effectivement pour se libérer totalement du karma, eh ben, il faut la réalisation de la vacuité. Et donc à ce moment-là, s'il n'y a personne pour accomplir, bah,
D'accord.
quelque part, il n'y a plus
Ben
de,
voilà, c'est
y a
ça.
de truc.
Ouais.
Mais dans un premier temps, on va dire, oui, on va parler de, ok, il y a karma négatif, c'est le plus urgent à gérer, on va
C'est
le
ça.
compenser par karma positif. Mais y a, dans le karma positif, effectivement, on continue en fait bah, d'entretenir le karma. Et le karma positif ne libère pas. Mais par contre, il crée des bonnes conditions pour ensuite bah, réaliser la vacuité.
D'accord.
Mais ouais. Mais du coup, bah, ça, on va l'aborder la prochaine fois si vous
D'accord.
revenez.
Eh oui.